La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission coproduite par Divergence FM et l'Université de Montpellier, qui vous emmène en croisière dans l'archipel des laboratoires de MUSE, Montpellier Université d'Excellence. Et aujourd'hui, retour aux fondamentaux. Que dis-je ? Retour aux sources, tant qu'on le peut encore. Selon l'OCDE, 40% de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d'eau d'ici 2050. Et selon le Global Water Institute, 700 millions de personnes pourraient être déplacées à l'horizon 2030 du fait d'une pénurie d'eau. Le problème des autres, le problème du Sud, penseront certains, mais non. Face à cette menace, nous sommes tous bel et bien dans le même bateau et sans action globale et locale décisive, notre joli navire de croisière pourrait bien se transformer en radeau de la Méduse. Le 6 mai dernier, scientifiques de l'eau et députés tiraient la sonnette d'alarme en publiant une tribune dans le journal Le Monde intitulée « Sans une action décisive, le manque chronique d'eau ne trouvera plus de solution ». Notre invité du jour fait partie de ses signataires. Il est directeur du Centre international UNESCO dédié à l'eau qui a ouvert ses portes à Montpellier il y a peu. Éric Servat, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour maintenir cette interview à flot, la très rafraîchissante Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, le reportage en salle des machines revient et vous emmène au CEDRE, le Centre d'études, de documentation et de recherche en histoire de l'éducation. Son directeur, Sylvain Vagnon, y conserve une singulière collection, les films fixes, utilisés comme matériel pédagogique dans les écoles françaises au cours des années 50. Et croyez-moi, ça vous réserve quelques pépites. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Éric Servat, donc vous êtes signataire de cette tribune dans Le Monde où vous affirmez sans une action décisive le manque chronique d'eau ne trouvera plus de solution. On est réellement face à une urgence ?
On est face à une urgence, effectivement. On est face à une urgence parce qu'on voit bien que les ressources sont exploitées, surexploitées dans de nombreux cas. On voit également que les variations du climat modifient considérablement les précipitations et donc la ressource en eau en elle-même. On voit que des nouveaux types d'utilisation se font jour. Et véritablement, la situation est grave. Et il s'agit d'agir de manière rapide et de faire en sorte que l'eau soit peut-être mieux considérée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Où on parle souvent d'un certain nombre de choses en ce qui concerne le climat, on parle des situations extrêmes, mais on ne parle pas finalement de ce qui fait notre quotidien, et notre quotidien c'est l'eau. Je vous rappelle que l'eau est absolument vitale, qu'elle concerne l'ensemble de nos activités, que c'est quelque chose qui est inscrit dans votre quotidien, sans même qu'on y pense finalement, et ça mériterait sans doute effectivement qu'on y fasse un peu plus attention, et on montre globalement plus d'intérêt pour cette ressource et pour ce qu'elle doit nous apporter de manière régulière.
Alors, d'après le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les plus grands dérèglements climatiques sont liés à l'eau. De quoi on parle quand on parle de ces grands dérèglements liés à l'eau ?
Je pense qu'on le voit assez régulièrement, c'est-à-dire que les conséquences du changement climatique sont visibles de manière immédiate lorsque on touche à l'eau, que ce soit parce que on va avoir affaire à des sécheresses extrêmes et donc une quasi disparition de la ressource, une vraie raréfaction en tout cas, ou que à l'inverse on se trouve dans des situations de précipitations extrêmement violentes avec des crues considérablement dévastatrices, qui vont donc générer des catastrophes humaines, des catastrophes financières, détruire des infrastructures, détruire ce qui, encore une fois, fait le quotidien des gens, leurs habitats, leurs villes, etc. Donc oui, incontestablement, des chiffres montrent que c'est plus du tiers des financements qui sont liées à des catastrophes elles-mêmes liées à l'eau. Et c'est l'eau, les crues, c'est un tiers des morts, des décès liés aux catastrophes naturelles dans le monde. Donc quand on est dans des situations qui sont des situations exacerbées liées au dérèglement climatique, derrière, effectivement, l'eau est un témoin absolument majeur de ces dérèglements et les conséquences sont dramatiques.
Alors, toujours dans cette tribune, vous affirmez que si la question du climat est globale, celle de l'eau est éminemment locale. Pour quelle raison ? Est-ce que ça veut dire qu'en France aussi, on a des menaces sur l'eau ?
Alors, oui, bien sûr. En France, on n'est pas... même si aujourd'hui, finalement, je dirais que jusqu'à présent, les choses, on peut considérer que les choses se passent plutôt bien. Oui, certains étés, dans certains endroits, on vous demande de faire attention, de plus laver votre voiture, de ne pas remplir votre piscine. Bon, mais globalement, les choses ne se passent pas trop mal. Simplement, ce qu'on sait, c'est que le dérèglement climatique continuant, les situations vont devenir beaucoup plus tendues. Si on regarde simplement, par exemple, la façade méditerranéenne, si vous regardez la rive sud de la Méditerranée, est déjà totalement en situation de stress hydrique. Chacun sait, ou en tout cas c'est ce qui est rapporté, que le bassin méditerranéen est un hotspot du changement climatique. Et donc, et on le voit chez nous depuis quelques années, on va avoir à faire face à des étés qui vont être plus longs, plus secs, plus chauds. On va avoir à faire face à des automnes et des printemps qui seront moins pluvieux, donc à une forme de raréfaction de la ressource et à une sursollicitation de la ressource lié finalement à une saisonnalité, qui est la saisonnalité touristique en particulier. On va donc sursolliciter une ressource à un moment où, paradoxalement, finalement, elle est la plus fragile parce que c'est très sec, c'est très chaud, c'est très long comme ça. Voilà. Donc oui, chez nous aussi, nous avons et nous aurons à faire face à des situations plus compliquées et il va falloir développer des techniques d'adaptation et de résilience.
Et justement, dans les solutions et les recommandations que vous mettez en œuvre, vous parlez de la gestion des milieux naturels. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour préserver cette ressource ?
Je crois qu'il faut essayer de respecter au maximum le cycle naturel de l'eau. Alors, il ne s'agit pas d'être sur des situations qui soient sans possibilité de changement ou qui ne prévoient qu'un type d'adaptation, par exemple ne jamais prévoir de stockage de l'eau. Mais globalement, si on veut préserver les milieux naturels, il faut respecter le cycle naturel de l'eau. Ça semble assez logique quand on le dit comme ça. Et ça veut dire qu'il faut au maximum respecter l'eau qui s'écoule, la mobilité. Voilà, il faut au maximum respecter ces écoulements-là. Il faut, parce qu'ils viendront irriguer les milieux naturels, ça viendra irriguer les zones humides, qui sont des zones importantes en matière de biodiversité. Ça viendra réalimenter les nappes là où elles ont besoin d'être réalimentées. Voilà. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir respecter au maximum les écoulements naturels pour préserver au mieux le milieu naturel lui-même.
Et quand on parle dans la tribune, vous parlez aussi de restauration écologique des cours d'eau. Comment on peut faire pour procéder à cette restauration écologique ?
Je dirais que là aussi, c'est d'abord de la préservation, de la protection et de la préservation. Et c'est donc, dans un premier temps, éviter de détruire, je dirais. La meilleure restauration, c'est de commencer par ne pas détruire. Et ensuite, c'est remettre en place tous les éléments du milieu naturel. Et l'eau est un élément absolument incontournable. C'est celui dans lequel la vie va se développer. C'est celui qui va permettre à la végétation de se développer comme il le faut. Donc c'est la préservation de ces milieux. Et la restauration passe par la non-destruction et par la remise en place de flux d'interactions naturelles entre les différents éléments de l'environnement.
Et si on descend sur la gestion des eaux souterraines avec la question des nappes phréatiques, est-ce que là aussi il y a une gestion particulière à mettre en œuvre pour protéger la ressource ?
Le problème des nappes, c'est à la fois leur réalimentation et la préservation contre leur possible contamination. Donc la réalimentation, c'est ce que j'évoquais en particulier tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à laisser l'eau la plus libre possible. Parfois, on est obligé de prendre des mesures où il faut stocker un peu d'eau, mais il faut essayer de laisser l'eau la plus libre possible de façon à ce qu'elle puisse venir réalimenter les nappes là où elle avait l'habitude de s'infiltrer et de réalimenter les nappes. Et il faut essayer de préserver les nappes contre la contamination. Donc il faut éviter, par exemple, tout simplement d'avoir des flux qui s'écoulent sans avoir été traités. Il faut mettre en place des systèmes d'assainissement qui vont permettre de traiter les eaux et d'éviter qu'elles s'infiltrent en étant polluées. Il faut éviter la surexploitation des nappes, notamment dans les zones qui sont les zones littorales, ce qui évite d'avoir des remontées d'eau salée qui viennent donc à ce moment-là contaminer les nappes et qui les rendent inexploitables. Donc oui, la gestion des nappes, c'est une gestion spécifique et c'est un problème important, a fortiori dans des régions comme la nôtre, où une large part de ce que nous consommons vient des eaux souterraines. Donc il faut être très vigilant quant à la préservation de la qualité de ces nappes.
Alors cette préservation de la ressource, on le comprend et vous l'exprimez dans cette tribune, elle ne peut pas se faire sans une volonté politique forte. Donc qu'est-ce que vous et la communauté de l'eau en général pensent de la place de l'eau dans le projet de loi Climat et Résilience ?
Une des raisons pour lesquelles cette tribune est parue et une des raisons pour lesquelles elle rassemble des gens, notamment sur le plan politique, des gens de à peu près tous les partis, en tout cas tous les partis raisonnables, je dirais, c'est que précisément, je crois que la prise de conscience, elle est générale, elle est globale autour de ça. Et ce qu'on constate, c'est que trop souvent, l'eau est un parent pauvre de ces lois. Et encore une fois, là, on se focalise finalement sur le climat avec une vision qui parfois ne va pas au-delà du climat en tant que tel, en tant qu'objet autour duquel il faudrait réfléchir, modéliser, développer un certain nombre de choses. Et y a d'autres éléments comme l'eau, comme les ressources en eau, qui mériteraient d'être considérées de façon beaucoup plus importante parce qu'elles sont, encore une fois, totalement indispensables non seulement à notre vie, mais à toutes nos activités. Les activités industrielles, les activités domestiques, les activités agricoles, l'eau intervient partout. L'eau est un élément transversal qu'on trouve dans tous les domaines d'activité de notre société. Et malheureusement, l'eau manque de considération. C'est souvent le parent pauvre d'un certain nombre de lois ou de décisions. Et là encore, finalement, la place réservée à l'eau est extrêmement faible.
Et justement, vous dites qu'on devrait considérer l'eau comme un patrimoine commun. Et justement, à Montpellier, Lucie en a parlé en lancement, vient d'être créé le centre UNESCO dédié à l'eau, Icy Reward. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce centre et ses activités ?
Oui, donc le centre a été créé en novembre 2019 pour différentes raisons. Le premier conseil d'administration s'est tenu en février 2021. Et donc c'est un centre international qui finalement vient concrétiser tous les liens qui existaient entre l'UNESCO et la communauté de l'eau et en particulier les hydrologues montpelliérains. Donc ça, c'est une concrétisation de ces liens anciens, productifs. Nous sommes nombreux à nous être impliqués de manière importante dans les programmes de l'UNESCO. Et donc, c'est une reconnaissance de ce que nous avons apporté et de ce que nous proposons d'apporter dans les années qui viennent à la communauté scientifique et en particulier dans le cadre des programmes de l'UNESCO.
Il y en a beaucoup des centres UNESCO dédiés à l'eau dans le monde et en France ?
Alors, en France, non. En France, il y a des chaires, mais les chaires, c'est un petit peu différent. Une chaire, c'est quelque chose qui se construit autour d'un sujet en particulier. Un centre, ça embrasse de manière beaucoup plus large. Et donc, il n'y en a pas d'autres en France. En revanche, il y en a une trentaine dans le monde, à peu de choses près, qui ont des niveaux d'activité qui sont différents, qui ont des niveaux d'importance qui sont différents, et qui sont inégalement répartis, là aussi, à la surface de la planète, un peu comme les ressources en eau, d'ailleurs.
Vous l'avez dit, les relations entre Montpellier et l'UNESCO sont assez anciennes. Il y a une communauté très importante qui travaille sur l'eau à Montpellier, c'est bien ça ? Communauté scientifique ?
Oui, absolument. Il y a une communauté scientifique qui est très importante en nombre. Il y a 400 scientifiques et il y a dans nos laboratoires entre 120 et 150 doctorants. Nous sommes organisés et nous sommes sans doute aujourd'hui la communauté scientifique dans le domaine de l'eau organisée la plus importante en France. Donc oui, c'est une masse scientifique importante. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de couvrir la totalité des domaines, depuis des approches très, très sciences dures, mathématiques, physique, modélisation, jusqu'à des approches du domaine des sciences humaines et des sciences sociales. On couvre l'ensemble des activités dans le domaine scientifique. Ça nous permet vraiment d'aborder toutes les questions de l'eau de manière complète et de manière la plus intégrée possible.
Et justement, du coup, est-ce que vous pourriez nous exposer dans les grandes lignes les projets sur lesquels vous allez travailler avec IC Reward ?
Oui, alors la particularité de la communauté de Montpellier, c'est donc d'être nombreuse, de couvrir un grand nombre de domaines et donc d'être en mesure de développer des approches pluri- et interdisciplinaires. L'interdisciplinarité, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant dans la création de ce centre. C'est notre force, c'est notre atout. Et c'est ce qui intéressait l'UNESCO parce qu'on venait finalement, je ne vais pas dire combler un vide, mais en tout cas apporter une démarche tout à fait originale dans le cadre du réseau des centres UNESCO. Et nous, on va développer des aspects qui sont là aussi très, très variés, depuis les approches très spécifiques sur les processus proprement dit, les mécanismes qui entrent en jeu dans le cycle hydrologique, jusqu'aux approches qui combine finalement les approches physiques, hydrologiques et les approches de type social ou même les politiques publiques. On va développer toute une gamme d'activités dans ce domaine en ayant aussi à l'esprit, et c'est aussi un des axes forts sur lesquels nous voulons travailler, une dimension qui est une dimension régionale, une dimension de grand bassin versant, précisément parce que c'est l'échelle à laquelle la notion de ressources en eau devient intéressante, exploitable, à prendre en considération. Et donc, depuis les processus, jusqu'à la complexité des ce que nous appelons dans notre jargon des socio-hydrosystèmes, qui combinent donc les approches plus sciences dures et les approches plus sciences humaines, sciences sociales, en passant donc par ces grands bassins et toutes les approches qu'il faut développer pour développer de nouveaux capteurs, de nouvelles sources d'informations, etc.
Alors, le temps passe très vite, mais est-ce que vous pourriez nous dire en 2 secondes, alors, ce que ce centre UNESCO va changer concrètement pour vous, pour la communauté des chercheurs ?
Alors, très rapidement, c'est une reconnaissance internationale et donc une visibilité internationale qui est absolument extraordinaire, qui est totalement démultipliée et qui nous rend donc, et qui rend Montpellier, et notamment à travers son projet MUSE, d'université d'excellence, qui rend Montpellier extrêmement visible au niveau international dans notre domaine. Et ça, c'est considérable. Ce sont les mêmes gens qui font les mêmes choses, mais avec, je dirais, le logo de l'UNESCO. En termes de visibilité, on change de dimension.
Éric Sarava, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. On passe maintenant à la séquence en salle des machines, donc, où le CEDRE, le Centre d'études, de documentation et de recherche en histoire de l'éducation, nous a dévoilé un de ses petits trésors, n'est-ce pas Aline ?
Oui Lucie, en ouvrant toutes ces petites boîtes, on s'imagine sur les bancs de l'école primaire, 70 ans en arrière, une belle occasion de noter qu'en termes de programme scolaire, les choses ont un peu changé.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Je suis Sylvain Bagnon et je suis professeur à la faculté d'éducation à l'université de Montpellier et aussi responsable du centre d'études en histoire de l'éducation. Mes recherches sont plutôt sur l'éducation nouvelle, sur les éducations libertaires, mais aussi sur les outils scolaires. Là, ici, ce qui m'a intéressé, c'est le film fixe.
Sur la table, on a plein de petites boîtes de 3-4 cm. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On dirait une pellicule.
Donc, comme son nom l'indique, c'est un film, mais fixe, c'est-à-dire que c'est un négatif. Le domaine scolaire s'était intéressé à partir des années 30. Film fixe qui avait quand même un gros problème, c'est qu'ils étaient inflammables. Et donc, on a interdit le film fixe parce qu'évidemment, on a estimé que c'était beaucoup trop dangereux. Et puis, dans les années 50, là, on a trouvé le moyen de faire un film, justement, non inflammable. Et là, ça a été véritablement un essor extraordinaire. C'est pour ça que nous avons ici un fond de à peu près 4-5 000 films fixes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près une soixantaine d'éditeurs. C'est-à-dire que tout le monde va se mettre à faire du film fixe. C'est un vrai marché qui apparaît. Et donc, les entreprises vont trouver que c'est un moyen unique où ils vont pouvoir rentrer dans l'école publique par un biais qui est celui du film fixe.
C'est-à-dire... Et justement, là, on voit une boîte sur laquelle il y a écrit ESSO. Il y en a un, c'est la recherche du pétrole, l'autre, forage et production, et le troisième, raffinage du pétrole. Du coup, c'est des outils pédagogiques, ça ?
Alors, à peu près la moitié de tout ce qu'on a, c'est des films fixes payés par des entreprises qui vont les offrir à l'éducation nationale, donc aux enseignants. Et on s'aperçoit que la première partie est souvent très pédagogique, c'est-à-dire que là, sur le pétrole, eh bien, on peut avoir la géographie du pétrole, d'où vient le pétrole, etc., ce que c'est que des énergies fossiles. Et puis petit à petit, on va avoir des éléments en disant bah, « la voiture est vraiment indispensable, tiens, cette voiture, elle marche au pétrole d'ailleurs, etc. » Et à la fin, on en vient « acheter votre essence à ESSO ». Mais c'est souvent très subtil.
Et par exemple, ces films-là, c'était projeté à des enfants de quel âge ?
Alors, beaucoup dans le premier degré. Le film fixe coûtait très peu cher et la projection est hyper facile. Là, vous avez au-dessus une série de projecteurs. C'est comme une visionneuse, en vérité. Et donc, ça, c'est une révolution parce que les enseignants, là, ont juste à placer comme une diapositive, en vérité. Et il y a un petit bruit caractéristique. Et à chaque fois, chaque image va faire clac, clac, clac. Et il aura juste un moment à faire passer au rythme qu'il le choisit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tous les domaines possibles et imaginables. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la géographie, par exemple. Cette discipline a très vite compris l'intérêt. Et des films fixes, là, qui ne sont absolument pas de propagande, hein, des films fixes vraiment de géographie, où ils pouvaient justement amener énormément d'éléments importants et pédagogiques.
Et justement, on en a un là sur la table. Donc sur la boîte, il y a écrit l'Afrique verte et il y a un petit support papier qui va avec, qui l'accompagne.
Tatiana a sorti ça parce qu'il y a en règle générale un film fixe qui certaines fois peut aller avec le manuel scolaire, mais pas toujours. Mais surtout, il y a une notice. Donc la notice, c'est un peu un livret du maître. Et il va justement va pouvoir suivre son film fixe, il va pouvoir le choisir, le développer, expliquer aussi aux enfants ce qu'il faut regarder. Et on a même trouvé des cahiers d'élèves, c'est-à-dire qu'on a trouvé comment certains enseignants l'utilisaient. C'était un cours dialogué, c'est-à-dire que vraiment l'enseignant posait quelques questions, que vois-tu au premier plan ?
Je m'appelle Tatiana Tessier, je suis bibliothécaire et je suis responsable du catalogage de la collection de films fixes.
On voit aussi le Chaperon Rouge ou la Serpe d'Or, il y a des contes aussi, des histoires.
Il y a plusieurs groupes de grands sujets comme les contes, science, géographie, histoire, sport et religion.
C'est assez moderne de se dire qu'il faisait sous forme de projet. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard aussi où, par exemple, Célestin Freinet, qui est un pédagogue donc, d'éducation nouvelle, voit l'intérêt de ce film fixe, mais estime qu'il y a quand même un danger, c'est qu'on est obligé de suivre un petit peu la trame. Et donc, il apprend aux enseignants, et on l'apprend aussi d'ailleurs à l'école normale, à couper le film et à le recoller pour faire un choix pensé, en vérité, de ce qu'est le film fixe. Et le film fixe va durer justement jusqu'à la diapo, où la diapo, finalement, bah, l'enseignant peut prendre celle qui lui plaît. Mais là, à l'époque, il apprend à souder, comme ça, il fait son film fixe personnel.
Quand on dit qu'il va jusqu'à la diapo, ça correspond à quelle période ?
En réalité, le film fixe s'arrête à peu près jusqu'aux années 60, mais dans l'Hérault, comme justement c'est un département relativement pauvre, eh bien, ils vont tirer à peu près jusqu'au milieu des années 70.
Vous nous en avez sorti un qui s'appelle « Au pays du Petit Négro ».
Celui-là, il est particulier parce qu'en réalité, Petit Négro est une marque de bonneterie. Ils ont fait une espèce de petit conte où il y a un petit garçon donc, africain qui a en permanence évidemment une culotte de coton. Et il lui arrive plein d'aventures, etc., un peu comme à Tintin. Donc là, on a vraiment un processus complètement raciste de début à la fin, mais assumé par l'entreprise. Donc c'est aussi nous montrer un moment de notre histoire. Hein, et c'est clair, là, qu'il y a énormément de films fixes qui marquent vraiment le succès de la colonisation.
Il y en avait un moment donné, hein, très mignon, lu et approuvé, avec un dessin de petit beurre. Est-ce qu'on peut en ouvrir un pour regarder
Pas de problème. Oui.
Je risque pas de casser quoi que
ce soit. Non, justement, c'est une des caractéristiques du film fixe, justement, c'est que c'est vraiment à la fois très souple, mais c'est aussi, ils sont en très bonne qualité, et ils restent de très bonne qualité.
J'avais pas imaginé que les dessins seraient aussi fins.
C'est une avancée technique vraiment très forte pour l'époque, parce qu'ils vont jouer en plus sur quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans un manuel, c'est d'allier à la fois des photographies, mais aussi des dessins, des textes, il y a des graphiques, chose qui n'existait absolument pas d'ailleurs dans les manuels scolaires.
Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais il n'y a que de l'image, il n'y a pas de son.
Oui, oui, tout à fait.
Ah, je suis impressionnée vraiment de la qualité,
la qualité de l'image.
Alors là, il y en a un qui s'appelle Leçon de morale. Ça aussi, c'est le témoignage d'une époque.
Et là, il y a
trois boîtes rouges qui s'appellent « Avant d'aimer numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ». On peut savoir ce qu'il y a dedans.
Tatiana a ri.
C'est moi qui ai passé. Cette série-là, justement, en couleur, est assez intéressante parce que c'est de l'éducation sexuelle.
Et Lucie l'a ouvert, on va aller regarder ce qu'il y a dessus. Il y en a qui m'intriguent quand même. Ce que tout assuré social doit savoir, ça s'adresse à des enfants.
Il y a tous les ministères qui se mettent à faire ça. Donc, là, par exemple, le ministère des Affaires sociales, se dire de connaître ce qu'est la sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, comment ça fonctionne, comment on va même au bureau de poste, etc. Des choses vraiment de la vie quotidienne est expliquée ici dans ces films fixes parce qu'on a beaucoup d'associations aussi. Alors, il y a les ministères, puis il y a les associations. Par exemple, on en a des très drôles sur... l'association de sauvegarde de la morue, qui, là, on aime beaucoup ce film, et qui nous explique pourquoi il faut absolument manger de la morue et qu'est-ce que la morue. Et donc, on a tout l'historique de la morue et sa géographie pour ensuite nous expliquer que c'est un bon produit.
Dans la boîte, je vois qu'il y en a qui sont titrés hygiène, peinture, pistolet, sécurité à l'usine. Est-ce que c'est des films qui sont utilisés aussi dans l'enseignement technique?
Oui, l'intérêt aussi, c'est que justement, on trouve des choses vraiment de l'école des années 50, c'est-à-dire qu'on est très concret, on est très pratique et on est très dans la vie quotidienne. Donc c'est-à-dire que c'est là d'ailleurs pour ça que les entreprises vont y voir un biais.
C'est une période où il y a l'éducation pour les femmes, l'éducation ménagère pour les femmes. Donc il y a comment faire les ménages dans la maison, le linge.
Et là vous nous disiez tout à l'heure qu'il y en avait 4 à 5 000 ici. Il y a d'autres collections en France de films fixes comme ça importantes?
Alors il y en a, oui. Alors il y en a un peu... partout, on va être. Beaucoup de cinémathèques les ont gardés parce que, vous avez vu, il y a un côté assez magique hein, quand même du produit, on va dire comme ça. Nous, notre idée, c'est de l'inventorier. Ça veut dire que grâce au travail justement de Tatiana, c'est qu'on aura un inventaire complet qui fait que là, on deviendrait un des premiers centres, enfin le premier centre en tout cas, avoir pu mettre justement en ligne pour tous. C'est pour ça qu'on a été aidé il y a 2 ans par l'Université de Montpellier. Donc on avait fait une grosse recherche justement internationale. Moi, ce que j'attends après, c'est justement que des chercheurs pourront s'en servir, l'utiliser. Là, honnêtement, moi, je trouve que c'est une source qui a été sous-estimée. Enfin, justement, c'est un objet patrimonial qui, en plus, a un intérêt, c'est qu'il est des années 30 aux années 70. Donc, en gros, on voit le début et la fin. Donc, on peut voir l'évolution de la pédagogie, on peut voir aussi comment les enseignants les utilisaient, comment, à la fin, ils en avaient un peu marre, et justement, arrive la diapo, qui permet à l'enseignant autre chose.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.